VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Mali, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est ce mercredi à Mopti, dans le centre du pays. Au second jour de sa visite, qui a commencé hier à l'occasion de la journée internationale des casques bleus, le 29 mai. Le patron de l'ONU a dit qu'il voulait être au Mali pour rendre hommage aux hommes et femmes courageux qui servent dans la MINUSMA, la mission de l'ONU sur place, la plus périlleuse opération onusienne actuellement dans le monde. Déployée en 2013, la MINUSMA, qui compte environ 12 500 militaires et policiers, a perdu plus de 160 casques bleus, dont 104 dans des accostiles, soit plus de la moitié des soldats de l'ONU tués pendant cette période dans le monde. Sur le terrain, les violences se multiplient depuis 3 ans dans le centre du Mali entre les Peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Les Peuls dénoncent régulièrement des exactions à leur encontre au nom de la lutte contre les djihadistes par des groupes de chasseurs traditionnels tolérés, voire même encouragés, selon eux, par les autorités et l'armée, ce que dément le gouvernement malien. Au Sénégal, les plaidoiries continuent ce mercredi à Dakar au procès pour terrorisme de 29 djihadistes présumés. Les avocats des deux principaux prévenus ont réclamé hier l'acquittement de leurs clients, alors que le parquet préconise des peines allant de 5 ans de prison à la perpétuité pour la majorité des accusés. Plus de détails sur ce procès qui avait démarré le 9 avril avec Abdourahmane Dia.
Les accusés, dont 3 femmes, sont poursuivis pour terrorisme, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Il leur est reproché d'avoir voulu installer des bases djihadistes dans le sud et dans le sud-est du Sénégal. Pour leur défense, ils sont représentés par une 60aine d'avocats. Aucun élément à charge n'a été retenu contre Martar Diouhané pour qu'il puisse être condamné à perpétuité, a plaidé hier son avocat, Maître Alassane Cissé. L'un des avocats de l'imam Alindao a lui aussi plaidé l'acquittement de son client et de l'ensemble des prévenus. Le 14 mai, le procureur Ali Sirendiaï avait réclamé les travaux forcés à perpétuité pour Martar Diouhané, présenté comme l'idéologue. Le parquet avait aussi requis une peine de 30 ans de travaux forcés pour l'imam Alindao, accusé d'être le coordonnateur du groupe.
Au Burkina Faso, les syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement tiennent depuis hier et jusqu'au 1er juin des sit-ins sur le lieu de travail. Ils exigent le respect par le gouvernement de ses engagements et protestent contre des mesures que les autorités envisagent de prendre. Au micro de Yacouba Ouedraogo, Adama Bahiré, représentant de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances, donne des détails sur les revendications des contestataires.
Les travailleurs du ministère réclament tout simplement que le gouvernement respecte ses engagements. En plus, il y a des réformes que le gouvernement veut entreprendre au sein du ministère qui véritablement constituent un danger pour les carrières des travailleurs, mais également un danger même pour les finances publiques de notre pays.
Quel engagement le gouvernement a pris qu'il n'a pas respecté?
Par exemple, il y a la question des cotisations syndicales qui est un engagement avec le gouvernement qui constitue à la retenue à la source et des cotisations syndicales et des cotisations pour les mutuelles dont le ministre des Finances a décidé de mettre terme unilatéralement. Ensuite, il y a la question le carburant, le fonctionnement pour les travailleurs. Et le ministre a pris un arrêté pour dire désormais qu'il n'y a plus de carburant pour les sorties sur le terrain. Ensuite, il y a la question également des motivations financières. On a demandé qu'il y ait des statuts sécurisants pour le personnel du ministère. Aujourd'hui, on nous tendons vers une privatisation des finances publiques. Il y a 3 mesures fondamentales que le ministre veut faire passer. 1. C'est l'érection de la direction générale des impôts en établissement public d'État, ce qui est contraire véritablement au caractère de souveraineté d'État de l'impôt. Il y a la question, par exemple, des guichets banques qu'elle veut installer au sein des services des impôts, et nous avons estimé qu'il y a des travailleurs qui sont là pour faire le travail. Ensuite, le gouvernement peut également donner le recouvrement des créances fiscales à des privés, alors que nous sommes formés pour ça.
La semaine dernière, vous étiez en grève. Cette semaine, vous êtes en sit-in. Le sit-in a été déclaré illégal dans un avis rendu par le Conseil d'État, qui est quand même la plus haute juridiction administrative du pays. Ne craignez-vous pas d'être sanctionné?
Aucun gouvernement ne va applaudir quand les travailleurs vont en lutte. C'est un avis que le Conseil d'État a donné. Pour nous, ce n'est pas une décision que le Conseil d'État a rendu. Ensuite, il y a la constitution du Burkina Faso qui quand même garantit la liberté de manifester.
Adama Bahiré, représentant de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En RDC, audit du fichier électoral. Les experts de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, ont à l'issue de leurs travaux déclaré ce fichier inclusif, exhaustif et actualisé, mais perfectible. La synergie des missions d'observation citoyenne des élections, la CIMOCEL, a fait des recommandations pour un consensus autour du dit fichier. Eddy Sango a interviewé le coordonnateur adjoint de la CIMOCEL, Emmanuel Kazadi.
À la publication du rapport des constatations de l'OIF, il s'est avéré qu'il y avait certaines faiblesses encore qui ont été relevées et qui font que la CENI devait continuer davantage à rendre le fichier beaucoup plus inclusif, rendre le fichier plus performant de manière à ce que toutes les parties prenantes au processus électoral puissent concourir effectivement à cette compétition-là.
Sur les plus de 4 millions d'électeurs qui sont retenus sur la liste après le nettoyage du fichier électoral, l'OIF dit qu'il y a plus de 16% qui sont des électeurs mais sans empreinte digitale. Comment pensez-vous que la CENI puisse résoudre ces problèmes-là dans quelques mois des élections maintenant?
L'OIF a dégagé les 16%, plus de 4 millions d'électeurs, mais l'OIF a demandé à la CENI de pouvoir s'y investir. Donc, il revient maintenant aux parties prenantes au processus électoral, c'est-à-dire les partis politiques et tout le monde, de pouvoir encore se mettre ensemble et de voir dans quelle mesure la CENI peut dégager des mécanismes qui peuvent permettre de casser ou de préparer un fichier qui est viable, un fichier acceptable par tout le monde, pour éviter que demain après-demain, cela ne soit pas un prétexte pour les partis politiques ou d'autres compétiteurs ou mouvements politiques à pouvoir tirer sur le fichier et dire que ce fichier n'est pas fiable et cela peut retarder le processus et causer encore d'autres conséquences sur le plan juridique.
Pensez-vous qu'il y a suffisamment de temps?
Tout dépend de la manière dont la CENI peut présenter un chronogramme qui lui permettrait maintenant d'enclencher un certain nombre de mécanismes à pouvoir soit écraser les doublons, à pouvoir tenir compte de tous ces écarts et cela de manière à ce que toutes les parties prenantes et surtout les partis politiques qui sont en compétition électorale puissent faire un travail de plaidoyer. Sinon, on ne saura pas effectivement ou réellement ces électeurs-là qui se trouvent dans le fichier seront à combien et les 16%, si on n'a pas résolu ce problème, on ne saura pas qu'adviendrait-il le jour des scrutins.
L'OIF elle-même ne dit pas que les 16% d'électeurs sans empreinte digitale devraient conditionner la tenue des élections.
Non, si l'OIF ne l'a pas dit, mais les partis en compétition électorale, c'est pour cela que nous, en tant qu'émission d'observation, nous tirons une sonnette d'alarme pour dire que cela ne devrait pas être un prétexte pour retarder le processus.
Vous appelez aussi à un consensus autour de la machine à voter, mais le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, a déjà dit que sans machine à voter, pas d'élection au 23 décembre.
Lorsque on prend cette donne-là par rapport au calendrier électoral, il ne prévoit rien de la machine à voter. Le tout, ce n'est pas d'obtenir le consensus autour de la machine à voter, mais c'est de voir est-ce que cela a été opportun.
Emmanuel Kazadi, coordonnateur adjoint de la CIMOCEL, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections. Il était à Kinshasa, en RDC. Au Comor, le colonel Azali en Somalie avait annoncé fin avril la tenue d'un référendum constitutionnel qui pourrait lui permettre de briguer plusieurs mandats présidentiels successifs. Si le non l'emporte, le président termine son mandat en cours, mais si c'est le oui qui est gagnant, il remettra son mandat en jeu. Plus de détails avec Irénée Herman Umbo.
Le chef de l'État sortant ne peut pas se représenter pour un deuxième mandat en vertu du principe de la présidence tournante entre les trois îles qui composent l'Union des Comores. Si le oui l'emporte le 29 juillet, des élections présidentielles et législatives anticipées seront organisées en 2019 au lieu de 2021. Le porte-parole de la présidence a justifié la nécessité de modifier la constitution à cause des lourdeurs du système constitutionnel actuel et qui pour lui constitue un frein au développement. Depuis plusieurs mois, l'opposition dénonce des abus du pouvoir du régime Azali. Outre son projet de référendum, il a récemment suspendu la Cour constitutionnelle, assigné à résidence l'un des chefs de l'opposition, son prédécesseur Ahmed Abdallah Sambi, et interdit les manifestations dans l'archipel. Les Comores, petit archipel pauvre de l'océan Indien, ont pendant de nombreuses années connu une forte instabilité politique, caractérisée par des crises séparatistes et des coups d'État.
Et pour terminer, le Zimbabwe organisera le 30 juillet les élections présidentielles et législatives, premier scrutin depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre dernier. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le journal officiel. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. La musique a...